Prêcher depuis 2000 ans, encore ce matin pour nos enfants aussi prêcher. Le message de l'Évangile, comme j'ai dit, il y a 2000 ans, est toujours d'actualité. On a toujours besoin de le répéter encore. Avec une longue lignée de messagers, de génération après génération, vous êtes témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Nous sommes témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Mais pour que pendant 2000 ans, cette bonne nouvelle de la vie éternelle en Jésus puisse se transmettre finalement fidèlement d'une génération à une autre, il faut deux choses. Il fallait que des messagers conservent ce message-là et qu'ils le conservent avec intégrité et que ce message-là, ce message évangélique lui-même, ne soit pas perdu. Vous avez une Bible ce matin? Vous l'avez amené avec vous, j'espère? Parce que c'est ça qu'on se sert. Ça, c'est le message de l'Évangile qui a été préservé. Dieu a inspiré, à partir de l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, a suscité et a inspiré, dès le premier siècle, des écrivains qui ont mis par écrit ce message évangélique inspiré. Et puis Dieu, après ça, a permis que l'Église confirme cette inspiration des écrits en établissant le canon, ou le canon du Nouveau Testament, la règle de foi, de pratique du Nouveau Testament. Et par la suite, Dieu a veillé à ce que sa parole nous soit transmise, de manière à ce que nous puissions, en 2008, encore une fois, ouvrir les Écritures, puis dire, Dieu dit, ainsi parle l'Éternel. Vous allez croire ça ce matin quand on va ouvrir les Écritures? Que c'est Dieu qui va parler. René Labbé va être juste un mégaphone. J'espère qu'il est méga, qu'il n'est pas juste microphone. Là, qu'il va pouvoir proclamer grandement, pas son message à lui, le message de Dieu. Dieu a permis que sa parole nous soit transmise jusqu'à nous aujourd'hui, en 2008, pour prendre connaissance du message de l'Évangile, découvrir la vie éternelle, découvrir le Christ ressuscité. Et une portion de cette Bible-là, c'est l'Évangile de Luc. Je regardais dans mes notes cette semaine. Depuis septembre 2003, je prêche sur l'Évangile de Luc. Oui, on a pris des petites parenthèses ici et là, à différents domaines, mais j'ai commencé avec Luc, chapitre 1, verset 1, en septembre 2003. Et près de 5 ans plus tard, ce matin, je vais arriver à la dernière portion de Luc. Parce que ce message-là nous a été préservé. Le message n'a pas changé depuis des siècles. Il y a quelque chose qui a changé, par exemple, à travers les 20 siècles du christianisme, ce sont les messagers. Les messagers, eux, ont eu besoin d'être renouvelés. Si le message de l'Évangile ne change pas, les messagers, eux, changent de génération en génération. Ceux qui comprennent l'Évangile, ceux qui reçoivent le message de l'Évangile, ont à chaque génération la responsabilité de le transmettre à d'autres. Et Jésus a choisi de donner ce privilège-là à chaque croyant, de devenir ses témoins dans le monde. Si vous êtes un chrétien ce matin, vous êtes automatiquement un témoin de Jésus. Vous êtes automatiquement un témoin de son Évangile. Hier matin, il y avait le déjeuner de l'espoir avec Richard. Un témoin de l'Évangile, avec un témoignage puissant de l'Évangile. Ça ne pouvait pas se transmettre juste par les écrits, ça prenait quelqu'un qui le communique. Un bon témoignage, un bon témoin. Ma question ce matin, c'est comment est-ce qu'on peut être un bon témoin de l'Évangile, comme Dieu va nous l'avoir recommandé dans la fin de Luc au chapitre 24. Dans cette dernière portion-là, j'aimerais qu'on retire ce matin 3 caractéristiques d'un bon témoin, puis que ça puisse nous permettre à nous évaluer nous-mêmes. Est-ce que je suis un témoin? Si je suis un enfant de Dieu, j'en suis un témoin. La question, c'est, est-ce que j'en suis un bon témoin ou un mauvais témoin? Et dans Luc, chapitre 24, les versets 36 à 49, on va voir une autre apparition de Jésus, de ce Jésus ressuscité qui relance ses disciples. ses disciples qui avaient été déçus, qui étaient conquis au moment de la crucifixion, il va les relancer pour qu'ils deviennent courageux, pour qu'ils deviennent conquérants, des témoins qui vont communiquer avec puissance la bonne nouvelle de l'Évangile après l'ascension. Et Luc va terminer dans les versets 50 à 53, on n'aura pas le temps de s'y arrêter. Mais il va terminer son évangile simplement par une courte description de ce qui est arrivé 40 jours plus tard, l'ascension. Et dans son deuxième livre, le deuxième livre de Luc, avez-vous déjà tourné ça? Tournez dans 2 Luc, chapitre 1. Le livre des Actes, c'est 2 Luc. Et le livre des Actes est la continuité de l'évangile de Luc. Alors, Actes chapitre 1, il va répéter un peu ces notions des versets 50 à 53. Que ce matin, nous puissions d'abord nous identifier au message de l'évangile et puissions-nous être motivés à être de bons témoins de l'évangile. Prions Dieu quelques instants. Oh Seigneur, encore une fois, nous ouvrons ta parole et nous allons y trouver ton dernier message à tes disciples. Vous êtes témoins de ces choses, tu leur as dit. Et Seigneur Dieu, je voudrais te prier que tu parles encore ce matin à tes disciples de 2008, en leur rappelant qu'ils sont encore aussi tes témoins, témoins de ton salut. Et Seigneur, ma prière aussi, c'est que s'il y a des personnes ici ce matin qui n'ont pas cette compréhension, qui ne se sont pas appropriés ce salut merveilleux, ce message de l'Évangile, Seigneur, qu'ils aient encore cette opportunité ce matin de te dire oui, de te dire « sauve-moi », de te dire « je veux entrer dans ta famille ». Ô Seigneur, témoigne de ta personne ce matin à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 24, nous allons lire à partir du verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, Jésus dans Luc chapitre 24, il apparaît d'abord aux dames, les anges apparaissent aux dames, puis ils disent, il n'est pas ici, il est ressuscité. Par la suite, nous avons à partir du verset 13, deux disciples qui s'en vont sur le chemin d'Emmaüs, une petite ville près de Jérusalem, et Jésus les rencontre et puis transforme leur cœur de les rendre bouillants. Puis là, ces disciples-là, ils retournent à Jérusalem, ils rencontrent les apôtres et les disciples, je ne sais pas si c'était encore dans la chambre haute, mais ils les racontent et disent « Oui, c'est vrai, Jésus est vraiment ressuscité. » Et les disciples, les apôtres, ils ne croient pas ça à peu près, ça doit être des illuminations. Et on arrive ici au verset 36, Jésus soudainement, les portes sont fermées, sont barrées par crainte des Juifs et se présente devant eux. Verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, les disciples d'Emmaüs, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? » « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il en mangea devant eux. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Bethanie. Et enlevé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. C'est le dernier message de Jésus, le jour de la résurrection où il rencontre les disciples. Et il leur dit, vous êtes maintenant témoins de ces choses. Mais pour devenir des bons témoins de ces choses, d'abord, un témoin devait avoir la conviction d'un fait. Pour devenir témoin de l'Évangile, les disciples se devaient d'être parfaitement convaincus du fait réel de la résurrection de Jésus. Voyez-vous, les femmes avaient été dans le matin. L'ange leur avait parlé, chapitre 24, au début du chapitre 24. Et l'ange avait dit aux femmes, au verset 9, 7 et 9, il est pas, 6 à 9, il n'est pas ici, il est ressuscité. Puis et c'est lui qui disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Puis elles se souvinrent des paroles de Jésus. L'ange rappelait aux femmes que ce que Jésus avait déjà promis qu'il allait faire, qu'il allait ressusciter. Avec les disciples d'Emmaüs, c'était Jésus qui s'était présenté devant ses deux disciples et qui les avait réprimandés en réalité de ne pas avoir compris, de ne pas avoir accueilli le message de la résurrection. Les versets, les versets 40, 44 de chapitre, pas 44, mais plutôt avec les disciples d'Emmaüs, les versets 24-25. 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Aux disciples d'Emmaüs, il les a rappelés, vous étiez supposés savoir ça, la crucifixion, l'ensevelissement, la résurrection. Et maintenant, il se présente directement aux onze et aux disciples qui étaient présents. Et il leur dit, la paix soit avec vous. Puis là, il va leur dire encore, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous avant la crucifixion, qu'il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit dans la loi de Moïse, c'est-à-dire la résurrection, que Christ souffrirait, qu'il ressusciterait. Voyez-vous, les disciples avaient besoin d'être convaincus de la résurrection de Jésus-Christ. Et voyez-vous, il n'y en avait pas vu souvent des morts qui avaient vu sur une croix mourir, se représenter comme ça devant eux, puis dire « Hey, c'est bel et bien moi ». Il n'y en avait pas vu souvent. Alors, si les disciples pensaient voir un esprit, un fantôme, Jésus les amène à la conviction ferme que ce n'est pas un fantôme qu'ils sont en train de voir, que c'est bel et bien lui, qu'il est ressuscité. Et que la résurrection, c'était à travers un corps physique aussi. Il avait maintenant un corps physique ressuscité. C'était bel et bien Jésus. Et Jésus leur dit, tout de suite en arrivant, « La paix soit avec vous. » Je n'ai pas besoin d'avoir peur que c'est un esprit, c'est la paix que je vous donne. Souvenez-vous ce que Jésus leur avait dit au souper, au dernier souper. Jean chapitre 14, verset 27 en montant, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Alors là, il revient puis il dit, la paix soit avec vous. Oh, regardez Jean 14, et il leur avait déjà dit, Jean 14, 27, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Il dit au verset 28, vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je vous ai dit, je m'en vais vers le Père, puis je m'en vais revenir. La paix soit avec vous. Puis je vous le dis d'avance, parce que c'est ça que je vais faire quand je vais être ressuscité. Je vais revenir vous voir. Et Jésus répète, la paix soit avec vous. Il va dire un peu plus bas, « C'est bien moi, c'est moi qui est là, n'ayez pas peur. » Jésus, c'est vraiment lui, et c'est vraiment lui ressuscité. « Soyez pas troublés », il va leur mentionner, « la résurrection a bel et bien lieu. » Et c'est pas juste un mirage de Jésus, c'est pas juste son esprit qui prend forme. Il y a vraiment un corps. Il dit, regardez mes mains puis mes pieds. Si j'ai envie de reconnaître quelqu'un ici, là, qu'est-ce que je vais lui dire? Montre-moi tes mains et tes pieds. Moi, le reconnaître comme ça? Si vous voyez juste ça de moi, là, allez-vous me reconnaître? Pourquoi Jésus dit, c'est moi, reconnaissez-moi, regarde mes mains et mes pieds. Il n'a pas dit, regarde-moi le visage. Pourquoi il dit ça? Ah, c'était évident. Il a été crucifié. C'est bien moi. Regarde, ces clous-là, ils ont percé ici, ils ont percé là. C'est bien moi. J'ai un corps. J'ai un vrai corps. Ce corps-là est glorifié, par exemple. Il y a des capacités différentes. Justement, le visage, peut-être qu'ils ne l'ont pas tout bien reconnu. Il est rentré à travers des portes barrées. Il est rentré, il est parti avec comme les disciples d'Emmaüs de la même manière. Regarde les marques de la croix. Regarde le sacrifice. C'est Jésus, ce n'est pas un autre. C'est Jésus en chair et en os. Voyez-vous, des fois, des gens nous disent, « Oh, il est encore parmi nous. Il est parti, mais il est encore parmi nous. » Ma mère m'a raconté la semaine passée, quand je l'ai rencontré. Elle dit, « Tu sais, ton oncle, telle affaire, il dit... au funérailles, t'as dit, priez pas pour mon père, il est au ciel. Priez plutôt les uns pour les autres. Puis là, mon oncle, il dit à ma mère, ben tu sais, il dit, Lionel, il est encore parmi nous, tu sais, on peut lui parler, on peut lui prier. Puis ma mère a dit, non. Pas parce qu'elle voulait pas que mon père se passe pas encore. Elle dit, non, il est au ciel, il est avec Jésus. Puis un jour, il va le ressusciter. Voyez-vous, parce qu'il y a de ces enseignements, même dans les milieux du christianisme, qui dit on n'a pas besoin de croire à la résurrection corporelle de Jésus. Jésus est parmi nous. Sa mémoire est parmi nous. On se rappelle de lui. Par conséquent, il est parmi nous. C'est ça que Jésus veut dire que c'est pas ça. C'est pas un esprit que vous voyez là. C'est pas un fantôme. C'est pas quelqu'un qui... Oh, je suis parmi nous. Je suis là en chair et en os. Voyez mes mains, voyez mes pieds. Et puis plus que ça, avez-vous quelque chose à manger? Donnez-moi donc quelque chose à manger. Un esprit, ça ne mange pas souvent, là. Fait que là, il trouve deux affaires, il trouve un rayon de miel. Oh, ça doit être bon. Vous avez déjà ça, des beaux rayons de miel, là. C'est pas une bouteille qui est vide, là. C'est dans des rayons. Puis il donne un beau rayon de miel. Puis là, il dit, et il mangea devant eux. J'imaginais ça cette semaine. Il prend ça, puis il dit, tu le vois? Ouf! Tu ne le vois plus. Un esprit ne ferait pas ça. Il est rendu vraiment à l'intérieur. Prenons un petit morceau de poisson rôti. Tu le vois. Ça sent bon. Oh! Tu ne le vois plus. Il est là. Pourquoi il fait ça, ce beau petit jeu-là? J'ai un corps. Je suis en chair et en os. J'ai un corps glorifié. Puis plus tard, il va monter au ciel, pas juste comme un esprit, il va monter au ciel corporellement. Dans Actes chapitre 1, Luc va répéter, ce Jésus que vous avez vu monter au ciel, il va revenir de la même manière. Moi, je crois que Jésus va revenir physiquement, glorieusement ici, pour me prendre avec lui. Croyez-vous ça? C'est pas juste un souvenir vague de Jésus il y a 2000 ans. Jésus voulait que ses témoins aient une compréhension, une conviction claire de la résurrection de Jésus. Et les disciples, après ça, pouvaient avoir être assurés de l'authenticité de Jésus, la réalité de sa résurrection. Ils pouvaient désormais être témoins. Nous sommes témoins. Jésus est ressuscité des morts. Un bon témoin n'a pas seulement la conviction d'un fait que Jésus est ressuscité, il doit aussi avoir une compréhension claire du message de ce Jésus ressuscité. Pour être des bons témoins, les disciples doivent être porteurs du message clair de l'Évangile. Vous devez, en tant que croyant, être sûr, être convaincu de la résurrection corporelle de Jésus-Christ, mais vous devez être convaincu du message de l'Évangile. Qu'est-ce que Jésus veut que vous soyez témoin? Qu'est-ce que Jésus voudrait que vous disiez? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 8, Paul y dit, « Si la trompette rend un son confus, qui se prépare au combat? Si on ne connaît pas clairement nous-mêmes le message de l'Évangile à partager, comment les gens entendront-ils le message et se convertiront-ils si nous-mêmes, on n'est pas sûr du contenu à communiquer de l'Évangile? Un bon témoin, il y a une compréhension claire d'un message. Le message d'abord que Jésus, ce qu'il a dit, est pleinement crédible, pleinement véridique. Jésus le rappelle. Et au verset, à partir du verset 44, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Je vous l'avais dit, ça, que ça arrive. Le témoignage que j'ai donné, il est vrai, il est crédible. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Le message que Jésus a transmis est le message de la Bible, de l'Ancien Testament et de la Nouvelle Alliance. On doit croire ce message de l'Évangile. Et il est crédible, il est véridique dans la bouche de Jésus. Lui-même avait déjà prophétisé qu'il mourrait, qu'il ressusciterait le troisième jour. Puis que son message, que son ministère sur la terre serait annoncé, puis ce ministère-là, ce message-là serait celui des Écritures. Moïse, prophète, psaume, trois grandes divisions de l'Ancien Testament que les Juifs connaissaient bien. Il avait rappelé ce message-là aux dames, il avait rappelé ce message-là aux disciples d'Emmaüs, et il le rappelle maintenant aux disciples, aux onze, puis aux autres disciples qui étaient avec lui, que c'est ça, ce message-là, qui est véridique, qui est crédible. Et pour qu'ils comprennent les Écritures, il leur ouvre l'esprit aussi. Pour être un bon témoin, je dois comprendre clairement le message à communiquer. Je dois comprendre d'abord que celui qui l'a communiqué, il est vrai. Il dit la vérité. Que les Écritures que je partage, elles sont vraies. C'est pas juste des histoires montées. C'est pas, comme va dire Pierre, des fables habilement conçues. Non, c'est la parole de Dieu. J'ai besoin de communiquer ce message-là. J'ai besoin de le connaître. J'ai besoin de le lire pour être capable de le communiquer clairement. Et particulièrement, le contenu du message de l'Évangile, il doit être clair. L'Évangile que les disciples devaient prêcher, il devait contenir des vérités qui étaient incontournables. Jésus, il dit verset 46, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. » Jésus devait souffrir. C'est le prix. Il devait payer le prix de ma rédemption. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment est-ce que je peux avoir mes péchés enlevés? Pas par mes œuvres, par le prix que Christ a payé. Il devait souffrir. Il fallait qu'il souffre. Il devait aussi ressusciter pour en donner la preuve que la rédemption avait été effectuée, que le Père avait accepté la substitution de la vie de son Fils pour la mienne. Qu'il ait pris mes péchés et qu'il m'ait donné sa justice et devait ressusciter pour manifester cette preuve de la rédemption. Et Jésus comptait désormais sur la prédication de la rédemption par ses disciples. Encore une fois, les versets 46 et 47. Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Est-ce que c'est suffisant que Christ soit mort et qu'il soit ressuscité pour que les gens se convertissent, pour